Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et de François Genet.
Rebonjour.
Oui,
tout à fait, mais il y avait un deuxième bonjour. Je suis le deuxième bonjour de la soirée. Rebonjour.
De l'avant-midi, bon, François. De l'avant-midi.
Moi, je suis tout cassé.
Ça part bien, cette émission-là. Oui. Donc, voilà, bienvenue à votre ciné magazine radiophonique. Et cette semaine, bien, on vous propose de faire... En fait, on a beaucoup aimé notre critique commune de la semaine dernière. Malgré le fait que certaines personnes qui nous ont écoutés à l'antenne ont trouvé qu'on se répétait, mis à part quelques difficultés techniques du côté de la station, ça s'est très bien passé. Je vous invite à aller voir, à aller réécouter plutôt cette émission en balado si ce n'est pas déjà fait. L'émission complète et en un seul morceau est disponible sur notre site web cinébrunch.com. Et on a tellement aimé faire une critique commune du film « Il pleuvait des oiseaux » la semaine dernière qu'on a décidé de récidiver cette semaine avec une autre critique commune, mais pas de « Il pleuvait des oiseaux » cette fois-là.
Ça serait un peu redondant.
Légèrement.
À peine.
Les gens sont plus habitués à ça. Donc, cette semaine, on va plutôt vous parler d'un film qui s'appelle « Ad Astra » ou en français « Vers les étoiles ». Un film avec l'acteur Brad Pitt, notamment. Et on va donc passer une bonne partie de la deuxième demi-heure à discuter de ce film-là, qui est quand même un film assez particulier, qui a beaucoup de choses un peu inhabituelles. Des choses intéressantes à discuter un peu plus tard. Sinon, d'ici là, on va critiquer pour vous deux films. On va critiquer le film « Les fourmis ».
Non, juste
fourmis. Juste
fourmis?
Fourmis.
Non, juste fourmis. OK. Et on va savoir pourquoi.
Un film qui parle de soccer.
Oui, tout à fait. Pour les amateurs, restez à l'écoute.
En un mot, François?
Jeune.
Jeune. Jeune, comme quand on mange pas pendant plusieurs heures?
Non. Quand t'es petit, comme une fourmi.
Eh bien, fort intéressant. Donc, à suivre, François, dans quelques minutes, va nous parler du film « Fourmis ». Sinon, de mon côté, moi, j'ai été voir Rambo, le cinquième et dernier film de Rambo, Last Blood, dernier combat,
dernier
je pense.
Dernier combat. Oui.
Donc, ça tout ça un peu plus tard. Dans l'émission, et en un mot, évidemment, je dirais 100.
Sans hésiter. Bien joué.
Il faut définitivement qu'on arrête avec ça. sinon, un peu de quelques nouvelles avant de démarrer en beauté cette émission. Tiens, commençons par François cette semaine.
Oh oui, écoute. Le troisième samedi du mois, je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'était le troisième samedi du mois de septembre, en fait. C'est l'anniversaire du personnage de Batman.
Toute série ou film confondu là.
Mais non, mais c'est Batman, le personnage de Batman.
Le comics.
Tout à fait.
Le personnage.
En fait, c'était le 80e anniversaire de Batman de DC Comics. Et pour l'occasion, donc samedi passé, ils ont, à plusieurs places dans le monde, mis le Bat-Signal. Ils ont projeté ça sur des places à travers le monde. Là. Évidemment, c'est pas un particulier qui a sorti
excellent.
Ça. C'est des gens, évidemment, de Warner qui ont décidé de mettre ça sur
d'accord.
Et Montréal était une des villes choisies pour pouvoir projeter le Bat-Signal. C'était à la place du Puy, à l'endroit où il y a les sièges sociaux de Warner,
justement
à Montréal, évidemment. Hein? Donc, on projetait ça là-dessus. C'est une belle place aussi pour faire ça. Le petit problème, c'est qu'il y a eu, pendant ce temps-là, une intervention policière qui a fait que, juste devant, il y a le... Non, mais c'est magique parce que ça a plus vraiment les renforts, hein, c'est ça l'affaire. Donc, le SPVM a dû vraiment annuler tout ça parce que dans le parc Émilie-Gamelin, qui est juste devant, il y a un homme qui souffrait de problèmes de santé mentale qui se trouvait là depuis à peu près 5h35, qui était dans une structure proche de là. Et pour intervenir, ils ont été obligés de fermer les lieux. Donc, ils ont dû obligés de dire votre affaire de
le ça Batman, marche pas. Ça passe
fait
pas.
Au final, ça a été projeté pendant quelques minutes quand c'était censé être là pendant très longtemps, pendant toute la soirée quasiment.
Mais François, penses-tu que le vrai Batman est venu régler la situation en aidant l'homme à sortir de la structure?
Ben, écoute, peut-être, parce qu'il est finalement descendu à 21h50 au terme de négociations assez solides avec les policiers.
C'est quand même quelque chose d'intense.
Oui, tout à fait. Donc, ça a été vraiment triste parce que Montréal, c'était le seul endroit au Canada où que cet événement-là était censé se faire. Il y avait 12 autres villes à travers le monde qui étaient sélectionnées.
Il faut attendre 80 ans avant de revoir ça.
Ben,
c'est presque aussi long.
Non, mais pour 100 ou 90 ans, peut-être qu'ils vont le faire. Bon. Peut-être qu'on va le refaire. On ne sait pas qui c'est. Mais c'était un bel événement, mais un peu raté.
On attend 2039 pour le 100 ans de Batman avec impatience.
Oui.
Tout à fait.
Ah, peut-être qu'il va venir pour vrai.
Peut-être, mais en fait, c'est un petit peu de lui. Écoute, le Batignol est arrivé parce qu'il y avait un problème.
Il y avait le crime.
Il y avait le crime.
Le crime.
En tout cas,
de parler.
Oui, façon de parler, tout à fait.
De toute façon, on pourrait un jour parler de Gotham City et des problèmes de santé mentale aussi. Ça, ce serait très intéressant à discuter.
On peut discuter de bien des choses.
Oui. Mélina.
Oui, en fait, moi, je vais vous parler encore une fois de Netflix. Donc, on a appris cette semaine que nul autre que Will Smith a signé pour un nouveau film avec Netflix. Film qui s'appelle The Council, qui est basé sur une histoire vraie qui se passe à New York dans les années 70 et 80, qui raconte l'histoire de la pègre, donc du crime organisé, et Will Smith qui va jouer le méchant. Donc, ça risque d'être très intéressant comme film. Donc, ça va raconter l'histoire de Nicky Barnes, qui a été arrêté à un moment donné en 1968, qui est devenu un informateur pour le FBI. Donc, j'espère que ça va être aussi bon que le film de Donnie Brasco.
Donnie Brasco,
qui est un très bon film, si vous ne l'avez pas vu, avec Johnny Depp, qui est méconnaissable dans ce rôle-là. Autre film sur la mafia. Donc, à suivre.
À suivre. Intéressant. Bon, on va suivre ça. D'ailleurs, cet acteur-là est actuellement... En fait, il y a un film qui sort avec lui dans peu de temps.
Oui, assez exceptionnel.
Il y a une espèce de double de lui.
Oui.
La journée.
C'est intéressant. Oui, tout à fait. On va voir ce que ça va donner. Puis, à suivre. Hein.
Oui.
Sacré Will. Hein.
Oui.
Sacré Will, comme on dit.
Oui. Hey, c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler. je parle souvent de Luc Besson. Là, je vais en parler encore, en fait. Je l'appelle le réalisateur français pour qui la controverse ne cesse jamais. Il frappe encore parce que, on se souvient qu'il avait été. Il s'était comme ramassé en justice pour une affaire de viol sur l'actrice Sen Van Roy. Finalement, la justice avait avorté le procès et classé l'affaire sans suite, puis probablement faute de preuves. Et récemment, en fait, l'actrice a décidé de redéposer une plainte au doyen des juges pour la partie civile, mais le parquet de Paris a conclu que les faits n'étaient pas juridiquement constitués et que les investigations menées pendant 8 mois ont démontré ni contrainte, ni menace, ni violence entre Besson et la plaignante. Alors, selon l'autorité de la poursuite, les faits établis indiquent que les faits criminels de viol n'ont pas été commis. Et l'avocat, évidemment, de l'actrice affirme que le parquet protégeait Luc Besson. Donc, bref, le réalisateur qui se sort un peu,
encore une fois,
de la situation. Mais on pourrait croire qu'il est hors d'ennui. Mais non, c'est pas fini pour Luc Besson parce que finalement, il va quand même se retrouver devant les tribunaux parce qu'il a été mis en demeure par la Fédération départementale des chasseurs de l'Orne.
Mais voyons.
Qui, lui, réclame 122 000 euros parce qu'il refuse de permettre la chasse aux cerfs sur son domaine en Normandie.
Wow.
Alors, on dit que quand du gibier abîme les récoltes, ce sont les chasseurs qui doivent régler la note conformément au code de l'environnement français. Un peu particulier parce qu'en fait, sur les terres de Luc Besson, qu'il possède depuis une quinzaine d'années, il vit entre 50 et 100 cerfs. On parle quand même pas de quelque chose incroyablement énorme. Luc Besson, on dit qu'il n'exerce pas son droit de chasse et n'autorise pas non plus les chasseurs à venir tirer dans son bois. Et il dit, en l'entrevue avec Le Parisien, il dit, en fait, en plein débat sur le drame de l'écologie et de la biodiversité qui touche toute la planète, les chasseurs de l'Orne me demandent de tuer des cerfs qui passent devant chez moi. Dois-je mettre mes enfants au balcon pour l'occasion? Ces gens-là sont à contresens de l'histoire, a-t-il dit. Donc,
quand même, hein?
C'est peut-être un personnage.
C'est succulent
comme
truc. Je pense
que ça ferait un bon film.
Ben, c'est bien parti, en tout cas. J'aimerais vous dire que c'est tout pour Luc Besson, mais non, en fait, le réalisateur vient de publier cette semaine son autobiographie.
Ben oui, on a...
L'enfant terrible. Le livre
semaine pour lui.
Va parler de ses 30 premières années de vie, probablement parce que les 30 dernières sont peut-être un peu plus controversées, dans tous les cas, alors voilà, c'est à
suivre. C'est de redorer son image.
Oui, enfin, on verra, mais... Puis en plus, je l'ai pas dit, mais en plus, il a perdu son école de cinéma.
C'est vrai, c'était ça la dernière fois que tu nous parlais de lui, oui.
Donc voilà, toute une affaire, ce Luc Besson, on verra ce qui se passera avec ce réalisateur. Voilà, merci! Voici votre Cinébrunch maintenant. Voilà, vous êtes toujours à l'émission Cinébrunch et François Genet va nous parler du film Fourmi.
Oui, tout à fait. Je suis allé voir le film Fourmi, film dont j'avais vu la bande-annonce récemment et ça m'avait
intrigué. T'avait parlé.
Oui, tout à fait, ça m'avait parlé parce que je suis un grand fan
de
soccer.
Moi aussi, en entendant Fourmi, j'ai tout de suite su qu'on parlait de soccer.
Ben, tout à fait. Ben, en fait, pourquoi ça s'appelle Fourmi? C'est une très bonne question, ça, Jim. Oui. En fait, pourquoi ça s'appelle Fourmi? C'est parce que le jeune Théo est surnommé Fourmi. Et le jeune Théo, c'est le personnage principal dans cette histoire-là. En fait, c'est un joueur de soccer. C'est un jeune qui joue au soccer. C'est pas ça sa carrière.
C'est un enfant. Il est dans un club de soccer.
Il est dans un club de soccer. Et on le surnomme des fois Fourmi.
Parce qu'il est petit.
Tout à fait. Voilà. Et il aimerait redonner, dans le fond, de l'espoir à son père, parce que son père est un petit peu désabusé dans la vie. Il a perdu quand même certains trucs dans la vie. Donc, il est un peu solitaire, rendu désabusé. L'occasion se présente à Théo d'être recruté par un grand club de foot anglais, le club Arsenal. Donc, les gens qui connaissent le soccer connaissent évidemment Arsenal.
Ça ne dit absolument rien, oui.
Non, mais moi, c'est le club de mon père.
C'est vrai, il possède.
Mon père aimait Arsenal.
Il aime plus maintenant?
Il aime toujours.
On le salue d'ailleurs.
Oui, tout à fait, on le salue, tout à fait.
C'est un club en Angleterre.
Un club en Angleterre, un très grand club mythique. Et donc, finalement, il n'est pas sélectionné par l'équipe parce qu'il est jugé trop petit. Le problème, c'est que il fait accroire à tout le monde qu'il est pris dans l'équipe. Et eux autres, son entraîneur et son père voient juste la conversation de loin. Et après ça, il revient, il dit « Finalement, as-tu été pris? » Et il dit « Oui ».
Fait que là, son entraîneur l'entraîne pour ça, puis son père, il trippe parce qu'il est
pris. Oui, mais là, c'est de dire la préparation pour aller en Angleterre, tout ça.
Ça va très loin.
C'est un petit mensonge qui va vraiment très loin.
Et pourquoi il a menti?
Parce que lui, justement, il voulait essayer de sortir son père de là. Il savait que son père, qui est dans la solitude, qui n'allait pas bien, qui buvait beaucoup parce qu'il s'est séparé, blablabla, il a perdu sa job. Donc, il n'y a plus grand-chose devant lui. Et lui aime tellement le soccer qu'il s'est dit, écoute,
ça va lui redonner espoir.
Puis il voulait pas décevoir son père non plus, qui voulait tellement qu'il se fasse prendre par Arsenal, ce club mythique. Donc, là, évidemment, la ville festoie, c'est une petite ville, eux autres, man, quelqu'un qui se fait prendre par Arsenal, c'est une grande nouvelle, toute la ville est au courant. Donc là, c'est de comment gérer tout ça, et le film part un peu comme ça. Donc, on peut aller écouter la bande-annonce et on va revenir avec le reste de la suite.
Il est complètement ouf, ton père, Fourmi.
Je m'appelle pas comme ça. Là, il est juste dans une mauvaise passe.
Théo!
Qu'est-ce que tu fais là?
Un recruteur d'Arsenal, il va venir te voir. C'est une chance unique pour toi. Ça peut changer ta vie.
Maintenant qu'il t'a vu jouer, il trouve que tu es trop petit.
Alors?
Il m'a sélectionné.
Mon fils est prêt à Arsenal!
Ils m'ont pas recruté, j'ai menti.
Oh putain!
Mais pourquoi t'as fait ça?
J'aimerais bien qu'on parte ensemble en Angleterre.
Alors il va d'abord falloir vous occuper de vous. Vous vous sentez capable?
Lâche-moi.
Tu pars avec papa, c'est pas footballeur que tu deviens, c'est barman.
Pas du journée.
Mélina a trouvé ça très drôle.
Oui, Tout à fait. Alors, parlons un petit peu de la distribution et de comment on s'est rendu à ce film-là. En fait, la distribution, François Damien, qui joue le rôle du père.
Très bon acteur.
Très bon acteur.
Souvent méchant dans les films, mais là,
oui,
non.
Tout à fait. Ben oui, mais un petit côté quand même, il se bat un peu, batailleur même. Soulon, batailleur. Malôme Paquin, qui joue le petit Théo, qu'on a pu voir dans Rémi sans enfant.
Sans famille.
Lapsus, ici.
Ah ben voilà.
Celui qui jouait le petit garçon dans
Rémi
sans
enfant.
Oui, exactement. Je sais pas si un jour, il y aura un film sur Rémi, ça va être Rémi sans enfant.
Oui, oui, c'est ça. là. Alors, une bonne distribution quand même. André Dusselier, quand même, qui joue aussi là-dedans. Donc, une très bonne distribution. C'est un réalisateur, Julien Rapeneau, qui, c'est son deuxième film qu'il a réalisé. Le premier film étant le film Rosalie Blum, qui était tiré d'une bande dessinée. Ça a été sorti il y a quelques années. Et c'est drôle parce que ce film-là aussi est tiré d'une bande dessinée. Donc lui, il ne fait que lire des bandes dessinées. Et,
c'est son trip.
Je sais pas. J'imagine que ça doit être ça.
Ben, j'imagine.
Donc c'est basé sur une bande dessinée. Et là, ça veut dire que je ne sais pas si c'est exactement tout ce que je vais dire. Je ne sais pas à quel point la différence entre le film, le scénario du film et la bande dessinée, c'est assez différent. Parce que je trouve qu'il y a des problèmes dans ce scénario-là. Et je ne sais pas si c'est l'adaptation qui a été mal faite ou si
ou l'origine.
L'origine qui marche pas. En fait, je pense que dans une bande dessinée, ça pourrait fonctionner.
Mais c'est ça, une bande dessinée, c'est beaucoup plus cartoonesque.
Exactement.
Tu peux te permettre de faire
des choses. Mais ça. Par après, quand j'ai vu au générique, basé sur une bande dessinée, en fait, c'est pas écrit comme ça, je pense que c'est un roman graphique là, qui marque, là, juste pour avoir l'air un peu plus... ça sonne un peu mieux quand même. Mais là, j'ai fait « Ah, OK, peut-être que je comprends. » Parce que les personnages secondaires dans cette histoire-là sont gros. Ça joue gros, là. OK? C'est, pour vrai, là, tu peux dire une affaire et il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur à ces personnages-là.
Okay,
c'est caricatural. Tu peux dire une affaire et ça décrit le personnage pour tout le film, ce qui est un peu lourd. Parce qu'il y a une personne qui aime la pâtisserie. Puis là, il est toujours avec la pâtisserie sur lui. Fait que tu le rencontres, par rapport dans la rue, il va avoir de la pâtisserie avec lui.
Ça
fait très BD, oui. Exactement. Puis là, je me suis rendu compte après, ça fait très BD. Après ça, il y a un geek que lui, il sort pas de sa chambre. Il n'est jamais sorti de sa chambre. À un moment donné, il voit de la pluie parce qu'il est obligé de sortir de sa chambre, il capote. Tu sais, à un point tel que t'es comme, ben oui, mais c'est caricatural, c'est trop gros.
Ouais, en même temps, la comédie française a un peu tendance à faire ça.
Oui, sauf que le problème, c'est que l'endroit où que ce film-là fait le mieux, c'est dans les côtés vrais et dramatiques.
Fait qu'on a un réalisateur qui devrait définitivement commencer à faire du drame.
Ben, c'est là que c'est le bon, parce qu'on regarde le côté, la relation entre le père et le fils, c'est là que c'est le plus intense, et là où que le film est le plus beau, je pense. C'est la relation, voir que le fils qui se donne pour essayer de rendre son père meilleur, puis de sortir son père de l'endroit où il est présentement.
Oui, parce qu'il fait tout ça pour son père.
Ouais. C'est ultra beau, fait qu'il y a des super de belles scènes là-dedans. Mais après ça, le côté comique est un peu... C'est pour ça que c'est bizarre, parce qu'on a des moments vrais et où qu'on essaye d'aller dans le vrai, dans le senti, dans l'émotion. Puis après ça, tu as un gars qui est tellement caricatural, un gars qui fait juste citer des grands noms du soccer.
Ouais.
Là, t'es comme, ouais, mais ça perd de... Tu te fais sortir de là, t'es comme, man, j'étais tellement dans une belle place. Puis moi, j'aurais voulu qu'on reste dans cette émotion-là plus longtemps dans le film, puis qu'on soit moins comédie que dramatique. T'sais, qu'on soit plus dans le dramatique, à la limite, qu'on soit plus dans l'émotion. Parce que quand on allait là, ça réussissait, c'était quand même assez bien. Pour les fans de soccer, je pense que c'est vraiment bien. Pour les jeunes
gars, on aborde vraiment le côté sport, quand même. Prétexte, là?
Mais c'est parce que c'est sûr qu'à la fin, tu sais, mettons, quand tu vois des championnats, des matchs de soccer, il y a des petits moments où on voit quand même le garçon jouer. Ça va rechercher quand même un fan de soccer. Surtout moi, tu vois un petit gars, tu t'identifies un petit peu quand même à tout ça. Fait que c'est sûr que ça vient te chercher quand même si, bon, on est dans le film de famille, là. Donc, enfin, un peu à la Disney.
Je veux pas dévoiler, j'ai pas vu le film, mais t'sais, on a l'espoir qu'il va quand même y aller à Londres. Là.
Ben, c'est ça. On a l'espoir, mais tu sais...
J'essaie qu'ils me répondent, mais sans le dire.
Je vais rien divulgâcher, mais c'est sûr qu'on est quand même dans la fin à la Disney,
okay,
où on veut pas finir sur une note dramatique, parce que c'est quand même un film pour, tu sais, ça vient de bande dessinée, là, ça va pas finir avec un meurtre puis un enfant de genre, tu sais, on n'est pas là-dedans.
Catastrophe.
Du tout, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr que c'est prévisible à certains moments, on dit ça va sûrement aller là, ça va là, mais il y a quand même des belles scènes, puis veux, veux pas, je suis pas certain qu'un jeune garçon de 12 ans qui joue au soccer, qui regarde ça,
va triper,
va quand même aimer certaines parties du film, tu sais.
Parce que c'est ça ma question, en fait, le public cible, tu penses-tu que c'est plus les jeunes de 10-12 ans ou c'est un film qui s'adresse quand même aux adultes?
Je pense que c'est plus pour les jeunes ou les parents qui se voit à travers le père et les parents. Ah. Tu sais, les parents, c'est soit que tu es un parent d'un enfant puis tu te vois à travers le père en disant est-ce que j'ai fait des bonnes décisions? est-ce que j'élève bien mon fils? Comment je dois... Est-ce que je dois laisser beaucoup de place à mon fils ou pas beaucoup de place? Tu sais, il y a vraiment... Est-ce que je dois laisser les rêves aller? Tu sais, il y a vraiment une belle réflexion qu'il peut y avoir là-dessus. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais sinon, c'est je pense que quand tu te retrouves dans le milieu, c'est peut-être plus difficile, tu sais. Comme un peu moi, j'étais entre les deux. J'étais entre le jeune garçon de 12 ans qui joue au soccer, puis entre les parents de 40 ans qui regardent leur fils qui joue au soccer, puis qui se projette un peu là-dedans.
Qui ont l'espoir, qui va percer un
ouais,
peu.
Oui, qui viennent avec tous les questionnements aussi de ça. Fait il y a vraiment des belles réflexions là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de ratés, malheureusement.
Ah,
dans ce film-là.
Comme quoi, mettons?
Ben, c'est ça. Il y a plein de scènes qui servent à pas grand-chose. Mm. Tu sais, moi, je regardais ça, j'étais comme ça, ça aurait dû être dans les deleted scenes. Je veux dire, à un moment donné, il arrive, il y a sa mère au personnage de François Damien, le père. Mm-hmm. Sa mère, elle ne fait qu'écouter des documentaires animaliers. Mm-hmm. Elle ne fait que ça. Elle ne parle même pas.
C'est encore là très cliché.
C'est très cliché, ouais. Exactement. Puis à un moment donné, il fait juste, genre, il y a une scène, il revient pour y dire quelque chose, puis elle parle pas, elle regarde de quoi, puis il dit rien finalement. Puis là, t'es comme, OK, ça sert juste à dire comme quoi qu'elle écoute des documentaires animaliers, puis après ça, plus tard, ils font une joke là-dessus. Mais t'es comme, man, pour vrai, là, genre, toute cette scène-là qui servait absolument à rien, qu'on aurait pu sauter, on aurait pu tellement être plus efficace, je pense, mais encore là, je pense que ça vient de la bande dessinée, potentiellement, qu'on a peut-être trop
c'était
voulu
se coller. C'était pas facile non plus d'adapter une bande dessinée, c'est
tout
ça.
Fait.
Peut-être qu'en se collant en trop, ben, on finit par perdre l'essence d'un film, mais en même temps, on veut pas déplaire à ceux qui ont aimé la BD.
Exactement.
Que c'est,
parce que je pense que si on avait voulu aller dans le comic, on aurait pu aller plus loin dans le comic, puis plus s'assumer, puis vraiment jouer cette carte-là, puis peut-être un peu moins le côté dramatique. Puis là, ça aurait peut-être plus marché avec, justement, la bande dessinée. Mm-hmm. Tandis que là, comme les plus belles scènes, je trouvais, c'était les scènes de rapprochement, les scènes un peu plus on va dans l'émotion. Ben là, après ça, puis les côtés... Tu sais, j'ai pas vraiment ri dans ce film-là. Okay. Tu souris un peu à certaines places.
Comédie, mais pas si...
Qui était censé être drôle, tu le trouvais juste trop...
Ouais, absurde. C'était trop gros. Mm. Des fois, prévisible aussi, parce que quand tu commences à comprendre le pattern des différents personnages, ben là, au début, tu fais comme... Tu pourrais être surpris, mais après ça, la surprise
ça
du personnage,
là,
tu l'as plus. Fait que là, quand il sort encore, « Ah, j'ai fait un autre gâteau! » Ben oui, toi, tu fais juste des gâteaux. Donc.
Ouais.
J'ai cité une autre personne. Ben oui, toi, tu fais juste citer des gens. T'sais. Fait que, il y a comme. tu viens qu'à stigmatiser tout le monde, puis dire, ben je sais que lui, va me donner
lui,
ça.
Lui, c'est un comme ça.
Puis,
lui, c'est un comme
il
ça,
te donne exactement ce que tu
encore
penses.
Encore là, très BD, très théâtre.
Encore là, très BD, tu sais. Ouais.
Caricaturé.
Est-ce que ça aurait été mieux en film d'animation, tu penses?
Peut-être que ça aurait effectivement mieux passé en film d'animation.
Parce qu'on peut réussir.
Mais en même temps. Ouais. C'est ça. Je pense que le message est quand même intéressant, qui réussit quand même à passer. Tu sais, je veux dire, le soccer en France est très présent présentement, avec l'équipe française qui va très bien, qui a gagné beaucoup de trucs récemment. Donc, ça va super bien. Le soccer commence à remonter en France. Puis Griezmann, qui est un joueur qui est assez petit aussi. Il y a beaucoup des affiches de Griezmann dans le film aussi, qui est un petit joueur. Donc, essayez de dire aux jeunes aussi, même si t'es petit... t'es capable de faire quelque chose. Mmh. Même si on pense que t'es pas capable, autant dans les sports qu'ailleurs, ben t'es capable d'y aller.
Morale,
donc, il y a une petite morale aussi. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des morales qui réussissent quand même à se rendre jusqu'au spectateur. Puis au final, j'ai quand même eu des réflexions grâce à ce film-là, ce qui est un point positif.
Ah bon, OK. Fait que c'est pas du tout manché...
Il y a certaines parties que oui, là, je veux dire, il y a des affaires à un moment donné, il se fait rentrer dans un, bon, un peu, il s'en va à l'hôpital, puis il ressort trois secondes après. Bon, c'est des affaires qui dérangent un peu. Ouais. Il y a des affaires comme ça que je trouve. Sans suite, vraiment. Oui, puis encore là, BD, ça pourrait fonctionner. Si c'est en dessin animé, tu te dis, bon, tu te pètes sa gueule.
Oui, le sens du temps n'est pas pareil dans une aussi, BD que dans un film.
C'est ça, tout à fait. Les conséquences des Tom et Jerry de ce monde, là, où on te frappe sur l'autre, tout le monde se frappe, puis après ça, il était crapouti, là, puis après ça, la seconde, la case d'après, ben, Colin,
il est en pleine forme,
tu sais. Il y a ce côté-là aussi, tu sais. Mais là, quand tu le vois en vraie personne, c'est comme, il me semble que c'est étrange un peu, tu sais. Fait que...
Ouais. Mais François, dis-moi, toi, est-ce que t'as déjà menti à tes parents
qui nous écoutent
pour les faire se sentir mieux?
Non. Non, mais moi je suis grand. Moi je ne suis. Non, mais
c'est une colle que je te pose parce qu'on sait que t'es malade.
Non. Mais non, mais surtout pas de ce niveau-là, parce que là, ça, c'est un niveau quand même assez intense. Oui. Puis il essaye après ça de justifier puis de rendre ça crédible. Puis c'est encore pire parce que tu rentres dans hein,
une belle recette, ça. C'est une belle recette, ça marche bien en général. Évidemment.
Oui, tout à fait. Mais donc, les jeunes à la maison, hein? Ne pas mentir.
Ne pas mentir. Oui, c'est ça.
Mais donc, c'est un film quand même que je recommande pour certaines personnes. Mais,
comme j'ai dit la semaine passée,
L'âge moyen, là, c'était quoi?
Ouais, moi, c'est ça. Je dirais soit les fans de soccer, vraiment. Il y a quand même des petites parties, des petites scènes pour vous. Sinon, les jeunes à peu près de 12 ans ou les parents d'une quarantaine d'années.
Tu couvres quand même assez large, là.
Donc, non, mais c'est deux petites
15-16, tu vas pas là.
Donc, ouais, mettons, t'as 16-17 ans, tu veux voir un film avec tes amis, peut-être pas le bon film. C'est peut-être pas le film qui va marcher.
Je pense qu'il devait pas en avoir beaucoup non plus de cet âge-là dans la salle.
On était deux, puis la personne a semi-partie en plein milieu. Donc, j'étais un peu tout seul. Fait qu'au niveau des statistiques, c'était
ta
moi.
Note, François?
Oui, permets-moi de te demander ta note.
Ma note, c'est un 7.5.
Ah, ben c'est pas si mal.
Quand même.
Okay. C'est correct. C'est correct.
Ça réinvente pas la roue,
c'est correct, prévisible, mais en même temps, ça te fait quand même réfléchir. C'est ce qui m'a fait monter la note. Mais c'est peut-être aussi parce que j'aime le soccer. Sinon, pour quelqu'un qui n'aime pas le soccer, peut-être que c'est 6.5. C'est là peut-être que je suis un petit peu biaisé parce que c'est un thème que j'aime beaucoup qui est venu me chercher.
Éventuellement, il faudrait qu'on parle de ça, les films de sport. Moi, j'avoue que je les ai un petit peu boycottés dans les dernières années.
Toby le chien?
Toby...
Pardon, les films de sport qui n'intègrent pas des animaux dans un rôle titre. Le dernier que j'ai vu, c'est Jeux de puissance. Ça fait un certain temps. Là. Coin, les Mighty Ducks.
Les Mighty Ducks, tout à fait. Okay. Oui, les Mighty Ducks.
Ça c'était vraiment écœurant. Mais...
Il y avait un film avec les jumelles Olsen où ils jouaient au soccer aussi.
Oui, tout à fait. Un film que tout le monde est tenté d'oublier.
Ouais, c'est pas le film qu'une des jumelles est prise pour l'autre, puis finalement...
Non, ça, c'est l'attrape-parent, puis c'est Lindsay Lohan. Un autre cas de gros mensonge de petite fille qui décide d'échanger de place, mais en fait, elle jouait les deux rôles. Mais...
C'est un très bon film, l'attrape-parent.
Oui, un classique pour moi.
Mais comment elle joue les deux rôles? C'est des jumelles, right?
Non, mais...
Ah, c'est pas les jumelles?
Non, c'est pas les jumelles, c'est Lindsay Lohan.
C'est la même fille qui joue les deux rôles?
Oui,
c'est Lindsay Lohan, elle joue les deux rôles.
J'ai l'impression d'avoir perdu ma jeunesse.
Oui, mon Dieu. Si tu savais.
Là, vous voyez ça, non. Non, j'ai une de reprendre le Père Noël, en tout cas. OK. tout ça est bien désastreux. Bref, non, c'est ça. Éventuellement, je n'irai pas ça qu'on parle du concept de film de sport. J'essaie de comprendre quel public est vraiment intéressé par ces films-là. Parce que...
Mais pour vrai, quand tu as déjà joué et tu as déjà vécu ces moments-là, je trouve que c'est intéressant.
L'effet de groupe, l'énergie.
Oui, c'est ça.
Shaolin Soccer, François?
Quoi?
Shaolin Soccer?
Shaolin Soccer.
Ça ne dit rien? Non, c'est un drôle de film. Le nom de ton professeur? Un mélange de kung-fu et de soccer.
Ah, OK, peut-être. Mais tu revis tous ces moments-là d'émotions. Le sport, c'est beaucoup d'émotions. Puis tu es capable d'aller chercher ces émotions-là, puis encore plus quand tu l'as déjà vécu. Donc, toutes les défaites, toutes les victoires, il y a tellement d'émotions attachées à ça que je pense que c'est pour ça peut-être aussi que ça fait des bons films, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et qui dit émotion dit bon film.
Oui.
Entre autres.
Parfois.
Oui. Des fois.
Oui, on verra donc. Ouais,
c'est un beau slogan, ça.
Ben, c'est exact. On verra si en deuxième demi-heure de cette émission, on aura autant d'émotions parce qu'on va faire la critique commune du film Vers les étoiles. Et je critique pour vous Rambo, la dernière mission. À tout de suite! De retour à Cinébrunch! Oui, Cinébrunch, aujourd'hui, on va faire la critique commune du film Vers les étoiles, ou en anglais... Ad Astra? Oui, ah, François.
Oh, mon doux.
Non, mais tu parles trop, je ferme ton micro, ça
oui.
m'arrive.
Ah, mon doux, tout à fait. Le couplet est tombé.
Ben voilà, exactement. Donc, oui, la critique commune du film Ad Astra. Mais avant, c'est le moment pour moi de critiquer le film Rambo. Et oui, wow, j'ai été voir Rambo Number 5. Oui, ben, j'avais dit que je le ferais.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai été voir Rambo numéro 5, le dernier et probablement dernier pour toujours film Rambo.
Parce qu'il faut
pas les mettre au défi. Faut pas les mettre
au défi. Je dirais pas si loin, mais je dirais que ça sonne la fin. Donc, Rambo Last Blood en anglais, en français, Rambo La Dernière Mission. Et ce film est un drame film. D'action américain réalisé par Adrian Grunberg, qui nous avait donné How I Spent My Summer Vacation avec Mel Gibson en 2012, un film que je n'ai jamais vu. Et sinon, évidemment, le film met en vedette Sylvester Stallone, hein, ça aurait été un peu dommage sinon, et Yvette Montréal, qui ne prend pas de thé.
Ah.
Sachez-le, à Montréal. Et donc voilà.
C'est noté.
Réalisateur différent de tous les autres films de Rambo, et pour être plus précis, il n'y a aucun film Rambo dans les cinq qui a le même réalisateur.
Ah. Oui, donc, c'est tout le temps quelqu'un.
Ça n'existe pas. C'est tout le temps différent. L'avant-dernier, donc celui qui précède celui que je viens d'aller voir, était réalisé par Sylvester Stallone, qui, ouais, qu'on a connu aussi pour avoir réalisé d'autres films, comme par exemple Rocky. Et donc, c'est ça. Hein, c'est tout est dans tout, comme on dit. Alors voilà, je vais vous parler donc de ce film Rambo, La Dernière Mission. Depuis sa dernière mission, justement, au Myanmar, qu'on appelait à l'époque la Birmanie, John Rambo vit tranquillement sur le ranch familial en compagnie de sa sœur et de sa nièce Gabrielle, qu'il traite un peu comme sa propre fille. Mais Gabrielle, ben, apprend par une amie que son père biologique, qui l'a abandonné quand elle était jeune, se trouve au Mexique. Alors, ils habitent proche de la frontière. Malgré les recommandations de ses proches et de Rambo, elle s'y rend et se retrouve entre les mains d'un cartel. Rambo devra s'y rendre pour tenter de la ramener à la maison.
Oh!
Voilà, donc on sort un petit peu, j'aimerais dire qu'on sort un petit peu des autres Rambo, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Il n'y en a pas un qui se passe dans le même pays. C'est une saga assez particulière, la saga de Rambo.
Oui.
Donc, comment dire, écoutons la bande-annonce.
Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets bien enfouis. Mais le moment est venu d'affronter mon passé. Et tous ceux qui me cherchent vont trouver la mort. J'ai soif de vengeance. Je veux qu'il sache que la mort approche.
Alors voilà la bande-annonce.
Quand même beaucoup d'action.
De Rambo. Oui, ben, hein, c'est ça.
Si j'ai pas d'action dans un Rambo, on s'entend que. Hein?
Effectivement, quand il y a trop de dialogue, c'est un Rambo raté. Donc, ben, c'est ça. Alors, écoutez. Quoi dire, ça se passe partiellement au Mexique, partiellement en Arizona. La deuxième partie du film va changer complètement, change de ton en fait, et ressemble un petit peu plus à un moment j'ai raté l'avion avec des pièges puis tout.
Ah oh, oui, tant que ça.
Ouais. Puis comme pour le quatrième film en 2008, on est dans le très sanglant, très violent, les morceaux de corps qui revolent, puis des affaires comme
c'est
ça.
C'est pas tous les Rambo qui c'est... sont violents
non,
et sanglants,
non? Non, okay. Les premiers étaient beaucoup plus doux. Bon, les années 80 étaient plus doux aussi. Donc, c'est ça, c'est violent. À certains moments, dans les combats, on sent même une certaine influence de Tarantino, je dirais. On sent le côté un peu absurde des combats. Par exemple, quelqu'un qui est clairement mort, mais t'sais, il en rajoute un peu pareil. Okay, ouais. Des choses comme ça qui font très... Je trouve qu'ils font très Tarantino.
Ouais.
Sinon, ben... Comme pour tous les Rambo, ça finit pas tant bien. Comme ça finit jamais très bien, un Rambo. une fin correcte, là, tu sais, mais
je sais pas, en fait,
on accepte les circonstances.
Faut que je me confesse, plus, j'ai vu aucun Rambo, donc...
Bon, moi aussi, en fait, Jim, t'es le seul...
Moi, je les ai tous vus, et je les ai même tous revus cette semaine pour être certain d'être prêt pour le film.
Oui, et selon toi, est-ce que la différence de réalisateur, est-ce que le fait que c'est un réalisateur différent à chaque Rambo, est-ce que ça fait une différence? Tu sais, je sais que, par exemple, dans les Harry Potter, mettons, quand on change de réalisateur, on sent qu'on change d'univers presque, à la limite.
Clairement.
Pour les Rambo, est-ce qu'on est capable de suivre ça ou c'est un peu trop disparate?
Je te dirais que c'est ce qui est un peu heureux. Il y a parfois des références au film. En fait, il y a généralement des références au film précédent. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que malgré le changement de réalisateur, on n'est pas comme dans Batman, là, où à chaque fois, on réinvente puis ça ne suit pas partout ce qu'il y avait avant. Là, on accepte qu'il y a un lourd passé à ça, puis on poursuit dans cette veine-là. On poursuit dans pas mal tous les films avec des espèces de flashbacks du passé là, qui le hante, parce que Rambo, à la base, c'est un personnage qui est séquelle un peu de la guerre du Vietnam. C'est un super commando, mais veut pas, il y a des traumatismes. Et il n'en est jamais vraiment revenu de ça. Puis en fait, je dirais que c'est un peu ce qui est le fun dans le cinquième film, c'est que ça garde ce côté-là. Puis ça permet pour la première fois à Rambo d'extérioriser sa souffrance intérieure, sa frustration dans une espèce de délire de vengeance qui est quand même fondé sur des éléments... Je veux dire, c'est pas lui qui a c'est pas prémédité, c'est réactif ou réactionnel à quelque chose qui se passe dans le film qui est quand même assez lourd. Mais dans tous les cas, il tombe dans un truc de vengeance, mais on sent que c'est un défoulement qui pesait sur lui depuis le premier film. Donc, ça, c'est vraiment intéressant dans le film. Maintenant, c'est certainement un très mauvais film au sens cinématographique du terme. Mais encore là, comme tous les autres films de Rambo, je veux dire, il n'y a aucun film de Rambo qui est bon en termes de cinématographie. Ouais. C'est clair et net. Si vous aimez Rambo, allez voir ce film-là. C'est probablement le meilleur des cinq.
OK. Donc, c'est dans la même veine quand même que les autres.
C'est
dans
la même veine. On l'a modernisé. Ça se passe aujourd'hui. Donc, on a un Rambo beaucoup plus vieux. Tout ça donne un autre style aussi. On a le côté un peu plus paternaliste du personnage qu'on n'avait jamais vraiment vu. Mais franchement, la série qui est devenue culte avec toutes ces imperfections-là, quand je regarde ces films-là puis je regarde celui-ci, on s'entend que ce film-là, il est vraiment au-dessus des autres, là. Il est vraiment meilleur que les autres. Est-ce qu'il va être aussi bien jugé ou coté? Probablement pas, parce qu'il sort aujourd'hui. Il n'y a pas la jouissance du culte d'autrefois.
Il n'y a pas la nostalgie
fois. Exactement. Si vous voulez mon avis, je pense que le puriste moyen n'a pas sa place dans cette critique-là. À mon sens, c'est un film qui est conçu pour faire plaisir aux fans de Rambo. Si vous n'avez pas de plaisir là-dedans, vous êtes vraiment trop sérieux, parce que ce film-là fait plaisir à l'acteur dans le sens du personnage, fait plaisir au personnage de Rambo. Niveau-là, moi, je trouve que c'est une réussite totale. On a corrigé, tu sais, je veux dire, il y a une époque où on n'avait pas la capacité de faire une scénarisation aussi impeccable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des films, puis on sent qu'on a un talent, on corrige les pièges faciles d'avant, on en laissait passer des petites vites avant parce qu'on ne savait pas, c'était pas nécessaire d'être si strict dans un scénario, dans une intrigue. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de quoi de meilleur. Donc, ce film-là est meilleur à mon goût. Je trouve que ça s'inscrit dans la même logique que Rambo, un gars qui veut rien de mal, mais qui finit tout le temps par avoir des problèmes, puis à qui la vie veut jamais lui donner une vie paisible. Je donne un 7.5 sur 10 à ce film-là. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est super violent. Allez pas voir ça. C'est pas un film de date, là. Allez pas voir ça. C'est vraiment pas pour ça. Puis je suis pas un grand fan de films d'action. J'aime les films d'action, mais je suis pas un fan fini de films d'action. J'aime beaucoup plus les comédies dramatiques en général. Et ce film-là, franchement, je l'ai trouvé très divertissant et très défoulant. C'est un film de défoulement, de vengeance. Si vous avez envie de vous défouler, vous êtes fâché, c'est un bon film à aller voir. Puis si j'avais rapidement classé tous les films en ordre, de meilleur au pire, alors ce serait le cinquième, suivi du quatrième, suivi du deuxième, suivi du troisième, suivi du premier. Donc le premier est le pire film jamais fait de Rambo, à mon avis. C'est totalement absurde. On regarde ça aujourd'hui, puis c'est pas encore assez mauvais pour être drôle, malheureusement.
Okay.
Sinon, le cinquième est excellent. Et si vous voulez aller vous préparer au cinquième qui est en salle, vous pouvez aller écouter le quatrième qui est sur Netflix en ce moment. Malgré le fait que c'est juste écrit Rambo quand vous faites la recherche, c'est bien le quatrième qui a été réalisé par Sylvester Stallone. À mon avis, le deuxième meilleur après celui qui est en salle en ce moment. Allez voir ça. Laissez-vous pas décourager par les critiques. Si vous aimez Rambo, vous n'allez pas être déçu par ce film-là. Je vous le garantis.
Oui. Wow.
Voilà, c'est tout pour Rambo. Number 5! Et c'est le moment que vous attendiez tous, le moment où on va parler du film Ad Astra vers les étoiles.
Oui, tout à fait.
Et François, tu veux nous en parler un petit peu plus dans les détails?
Oui, tout à fait. On va se transporter vers les étoiles tous ensemble avec une belle distribution quand même. Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Kimmy Shields, Donald Sutherland, John Ortiz, réalisation de James Gray, qu'on connaît pas beaucoup nécessairement.
Qui donne des cheveux gris.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une histoire quand même aussi, que je trouve intéressant parce qu'on a parlé plus tôt de fourmis. J'ai fait la critique de fourmis. Mais on a aussi, encore là, on parle d'un fils avec son père. Tout à fait, oui.
C'est populaire en ce moment, ces films-là.
Oui, exactement. Il y a quelque chose, il y a la fibre présentant dans la société de la recherche paternelle, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, dans le fond, c'est ça. C'est il y a la surge qu'on appelle en anglais, donc une genre de surcharge un peu qui arrive, c'est un petit peu le synopsis, et là, l'ingénieur joué par Brad Pitt, qui essaye d'aller régler ce conflit-là, ce problème-là, tout en essayant de savoir ce qui s'est passé avec son père dans une recherche, son père qui a été perdu dans l'espace 20 ans après son départ pour Neptune. Voilà. Alors, c'est un petit peu dans cette histoire-là qu'on se retrouve. Alors, on peut aller écouter la bande-annonce avant de continuer cette magnifique critique.
C'est parti!
C'est pour mon père que je fais tout ça. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie pour la quête du savoir humain.
Major, nous détenons des informations hautement confidentielles.
Que savez-vous au sujet du projet Lima ?
Son objectif était de découvrir une forme de vie extraterrestre évoluée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après le lancement de la mission.
Qui en était le commandant ?
C'était mon père, monsieur. Ceci risque d'être un grand choc pour vous. Votre père faisait des expériences avec un matériau classé hautement secret qui pourrait mettre en péril tout notre système solaire. Toute vie serait détruite. Nous comptons sur vous pour découvrir ce qui se passe là-haut.
Ben voilà, on compte sur nous pour critiquer ce film maintenant.
Oh. Ce qui s'est passé alors, là-haut.
Oui, juste pour être un petit peu plus précis, tantôt François t'a parlé de surge, de surcharge.
Exactement.
On parle de surcharge électrique ou électromagnétique, appelons ça comme on veut, mais dans les faits, ça impacte les appareils électriques, électroniques, une espèce de DMP, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est ce qui déclenche ce film.
Oui.
Alors, comment procédons-nous pour ce film? Parce que j'aime bien le décider à chaque fois avec vous, en ondes.
Oui, tout à fait.
Plutôt que de préparer à l'avance. Ça serait...
Pourquoi préparer à l'avance quand on peut improviser sur le vif?
Non, ben exact.
Tout à fait. Donc, alors, je crois que Jim, tu pourrais commencer avec qu'est-ce que tu en pensais? Parce que je pense que t'as des...
Je sais pas, j'ai peur de dévoiler trop d'affaires si c'est moi qui en parle en premier.
Mais je peux y aller en premier, moi.
OK.
Ben, d'entrée de jeu, je veux juste dire que c'est quand même un film un peu assez complexe, assez abstrait.
Oui.
Il y a plein de choses dans ce film-là.
Il y a quand même beaucoup de choses.
C'est quand même spécial, donc j'ai l'impression que tout le monde ici va avoir une vision un peu différente.
Oui, tout à fait.
Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais non, on t'écoute.
Oui, mais en fait, c'est un peu pour mettre aussi en contexte nos auditeurs. C'est un film qui nous montre vraiment Brad Pitt seul avec lui-même.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que la majorité du temps, bon, il rencontre des personnages, mais il est vraiment avec lui-même. Il est souvent seul. Il parle pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de dialogue.
Il mange pas de gomme. C'est dans un des seuls films où il mange pas de gomme.
Ah, ben j'avais jamais fait d'études sur ça.
J'avais pas fait la liste.
Ça, mais...
Ah non, il y en a beaucoup.
Mais... Sur Wikipédia, il doit avoir une liste.
Ah, sûrement.
Donc, c'est un film qui est très... Le rythme du film est pas lent. Mais c'est un film qui est quand même qui m'a mis dans un état vraiment très lent, très on se promène
de sommeil
un peu on se promène dans les étoiles. J'ai beaucoup aimé parce que on va se le dire, ça se passe pas nécessairement maintenant. On a c'est-à-dire ils se promènent de planète en planète. On n'est pas encore rendu là.
Non, mais c'est dans un futur relativement proche.
Relativement proche,
20, 30 ans là, on n'est pas dans le futur lointain là.
C'est ça, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir comment on montrait ça dans le film, à quel point c'était quand même facile, à quel point ça m'a fait penser à des voyages en avion. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir tout ce côté-là. Le côté de Brad Pitt seul avec lui-même aussi, j'ai trouvé ça très, très fort. Je pense qu'il nous démontre une fois de plus qu'il est qui est un très bon acteur, on va se le dire. Mm-hmm. Je trouvais qu'on arrivait vraiment à comprendre ce qu'il essayait de transmettre, qui est un personnage qui n'est pas tant facile à comprendre, parce que c'est pas un personnage qui est très expressif, c'est pas un personnage qui s'exprime beaucoup. Ouais. Donc, de
dire... Ça a été facile de rater
oui, vraiment.
Oui, tout à fait. Très tout facile. Et c'est un film où, plus le film avance, on nous donne pas nécessairement, dans l'introduction de ce film-là, on nous donne pas toutes les clés. T'sais, dans le sens où on rentre pas dans le film, il y a beaucoup de films où on commence, on dit « voici comment c'est présenté. » on dit tout ce qui se passe avant et maintenant partons de ce point-ci et allons au point B. Là, dans ce cas-ci...
Il y a des étapes.
Il y a des étapes. On découvre des choses plus le film avance et c'est donc aussi d'autant plus une difficulté, je pense, pour le jeu d'essayer de montrer ce cheminement-là dans ton jeu. Je pense que c'est...
Effectivement, surtout quand on sait que c'est sûrement pas tourné dans la continuité.
C'est sûr que c'est pas tourné dans la continuité.
Il y a un
continuité,
travail d'acteur qui est phénoménal.
Effectivement,
derrière
de se mettre à ce moment-là précis dans le film puis de dévoiler certaines parties. Puis c'est un très beau jeu d'acteur quand même.
C'est pas un film que je trouve qui a été beaucoup publicisé non plus.
Non, j'ai je pense pas qu'il mise là-dessus.
Non. J'ai l'impression vraiment que c'est un scénario que j'ai pas lu là-dessus, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir une performance d'un acteur qui a choisi ce film-là parce que le scénario le faisait triper, parce qu'il avait envie d'interpréter ce rôle-là.
Brad Pitt est un des producteurs justement sur la production. C'est ce que j'ai vu dans le générique, parce que moi justement j'écoute le générique jusqu'à la fin. Il me tasse tout le temps des salles quand je suis là en disant qu'est-ce que tu fais, pourquoi les lumières rouvrent, il referme parce qu'il se rend compte qu'il y a encore un individu qui vit dans la salle. Mais
on sent vraiment parce que c'est pas le genre de projet. Je veux dire, généralement quand on a un film avec Brad Pitt, on va le publiciser beaucoup, on va dire Brad Pitt est dans ce film, ça va être... Là, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment un trip d'acteur. Je pense que c'est, comme je disais tantôt, un rôle qui est, à mon sens, quand même difficile à jouer. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Au niveau de l'histoire en tant que telle, c'est difficile d'en parler sans faire de divulgateur par rapport à ça.
Effectivement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de discuter là-dessus.
Mais c'est une histoire quand même intéressante qui est vraiment, comme tu le disais, un homme, un fils avec son père. Donc, toute cette complexité-là aussi est vraiment très intéressante.
Ouais.
Mais moi, j'aimerais revenir sur la personnalité du personnage, parce que bon, on est avec une personne qui est comme réputée, qui c'est pas la NASA, ils ont changé le nom pour le film, mais en tout cas Space Agency, je sais pas
Space
quoi.
Com,
ouais, en tout cas une espèce d'organisation qui gère tout ce qui est spatial.
En fait, parce que dans le fond
il y en a d'autres,
parce qu'il y a aussi tout le côté comme si c'était un vol d'avion, comme
c'est ça, c'est comme normal, c'est
comme commercial, on va sur la lune,
c'est ça, on va sur la lune, puis c'est rendu commercial, puis il y a un vol commercial qui va jusqu'au sur la lune,
Harvey's ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est
un subway qu'on voit.
Il y a des escaliers roulants sur la lune. On est là-dedans.
On est dans la commercialisation des trucs. Il y a des points là-dessus, puis j'ai l'impression que ce film-là, sa difficulté, c'est qu'il réussit pas toujours à nous amener assez loin dans aucun de ces avenues-là. Il nous en montre juste un peu. On peut faire notre propre idée avec ça, on peut continuer avec ça, mais dans les faits, j'ai l'impression que ça laisse une espèce de sensation d'incomplet dans le film, de pas aller plus loin, à mon goût personnellement. Mais au niveau du personnage que Brad Pitt joue, personnage qui justement a été sélectionné parce qu'il y avait une gestion de ses émotions, de son calme incroyable, capacité à réguler son rythme cardiaque dans des situations extrêmes, puis à prendre des réactions froidement, à réagir froidement. C'est super intéressant d'enfin pas avoir un personnage principal qui est tout le temps essoufflé, qui est tout le temps en état de panique pour montrer la gravité du moment. Ouais. On réussit à vivre la gravité du moment dans ce film-là avec un personnage qui est calme. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça dans un film. Ouais. Déjà, ça, c'est inusité, là, c'est nouveau. Maintenant, est-ce que le film est sans faille au niveau scénaristique puis tout ça? Clairement pas. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup d'éléments un peu pas trop crédible à travers le film, mais je pense qu'on réussit à passer par-dessus ça. En tout cas, moi, j'ai réussi, je ne sais pas pour vous, là.
Oui,
des choses un peu spéciaux.
Tout à fait.
Là,
c'est sûr spécial. Que moi, je ne suis pas très... Ben, j'adore l'espace, puis comme toi, un peu, Jim, je pense qu'on aime l'espace, puis c'est un sujet qu'on aime.
Science-fiction.
Mais la science-fiction, j'ai été moins... Souvent, je suis moins porté d'aller voir les films de science-fiction, même si j'aime l'espace. J'aime voir un documentaire sur la Lune ou Apollo 13, le film. Ou j'aime ça.
Un truc un peu plus historique.
Un peu plus historique. Mais d'aller dans la science-fiction, dans la grosse science-fiction, souvent, je suis moins porté à aller là, vers la grosse science-fiction. Puis je trouve que c'est un genre, effectivement, comme un peu tu l'as dit, c'est un genre de compromis, entre guillemets, dans le sens où les gros fans de science-fiction, peut-être qu'ils vont dire c'est pas assez science-fiction à mon goût. Puis en même temps, ça laisse... C'est entre les deux. Puis je sais pas si c'est une si mauvaise chose dans le sens où ça permet... C'est rare qu'on voit ça. Fait que ça se démarque un peu plus. Dans le sens où c'est rare que tu as des films où tu as un peu de science-fiction quand même, mais tu es quand même dans quelque chose de semi-plausible que tu dis ça serait plausible plus tard.
Effectivement. Je pense qu'on s'en va vers ça, oui.
C'est pas si absurde que ça dans un sens, comparativement à certains films de science-fiction.
C'est pas Star Wars.
C'est pas Star Wars.
Guardians of the Galaxy.
Ouais, exactement.
On est définitivement dans du plus crédible que
ça. Il y a des éléments qu'on essaie de prendre dans du crédible. Puis après ça, on rajoute un peu de science-fiction aussi dedans. Puis ça crée, je trouve, un mix intéressant. C'est peut-être pas le meilleur mix, mais je pense que c'est un mix qu'on devait faire un jour.
Ouais.
Je pense que ça a lieu d'exister. Puis je pense que c'est intéressant que ça existe. T'sais.
Ben oui, mais moi, c'est sûr que ça a été fait jusqu'à un certain point, mais jamais de cette façon-là. Jamais avec autant d'éléments distincts mis ensemble de la même façon avec un personnage comme ça. Ouais. Ce film-là, pour moi, s'inscrit dans une lignée de films de science-fiction relativement récents. Je pense à Gravity, qui était un film qui était beaucoup plus sur le concept d'être abandonné dans le vide, là, d'être abandonné en orbite. On va beaucoup moins loin à ce niveau-là dans le film, mais on a cette espèce de sentiment de réalisme spatial.
Qu'on essaie quand même de mettre
dans... On essaie de mettre dans le film. Ouais. C'est présent, l'espèce de... Comment on se sent dans cette situation-là. On joue avec ça un peu. Et aussi, un peu, là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom de ce film-là, film de science-fiction. Il y a un 2 qui s'en vient, là, justement, bientôt, cette année, qui s'appelle... Comment ça s'appelle? J'ai juste dit Arrival en tête, mais c'est pas ça.
C'est très pertinent.
Oui. Mais
ça va te revenir quand tu y
vas. Tout à fait, on mettra sur notre page Facebook.
Non, c'est plus récent que ça. Là. Ça sortit il y a 5-6 ans.
Mais c'est sûr qu'il y a des petits trucs aussi qui m'ont accroché un petit peu, même si c'est un film de science-fiction, des fois, tu sais, bon, il y a des affaires, mettons, comment ils se déplaçaient dans l'espace, des fois, je trouvais que c'était un petit peu... Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais j'ai un feeling que non, là.
Là, tu parles à un moment donné où il tient un objet dans les mains,
ouais,
là.
Puis il fait juste se déplacer
ça,
un peu.
Définitivement tiré par les cheveux.
Il y a des affaires qui sont un petit peu tirées par les cheveux. À un moment donné, il arrive à quelque part, puis là, soudainement, il y a personne qui l'attendait, mais il y a plein de monde qui l'attendent pour qu'il sorte de la navette quand il y a personne qui l'attendait. Il y a tout plein de trucs comme ça que je me dis, bon, c'est de la science-fiction, mais faut pas... ça. Même dans un univers de science-fiction, ça a pas rapport, là. Tu sais, c'est comme... Ça m'a un petit peu dérangé, mais j'étais capable de passer par-dessus ça. T'sais, mais ça m'a un petit peu dérangé. J'ai fait genre, groupe, là, come on.
Qu'on parle du même truc, là.
Il y a quelques petits éléments comme ça dans le film que j'ai fait. On aurait pu, pareil, présenter la même affaire.
Sans aller là.
Ouais. Au début du film, ils passent par la Lune. Après ça, ils sont comme obligés de passer par la Lune pour aller plus loin. Mm-hmm. Après ça, c'est plus toujours vrai.
Moi, j'ai aimé le concept que sur la Lune, il y avait comme différentes nationalités ou différents groupes qui étaient là, qui avaient une espèce de guérilla,
des ondes de guerre.
Des ondes de guerre. Les
humains qui ont fait la même chose, en fait, avec la Lune qu'avec la Terre.
C'est ça, exactement. Ça, c'est amené d'une façon relativement crédible, à part peut-être le côté, qui a les moyens de se payer un voyage-là, mais on peut se dire qu'éventuellement...
Il va y avoir une démocratisation quand même.
J'ai trouvé ça super intéressant. C'est d'ailleurs une des bonnes scènes d'action du film se déroule sur la Lune. Beaucoup de beaux points, honnêtement, dans cette histoire-là. J'ai quand même... Honnêtement, j'ai apprécié ce film-là.
Oui.
Je ne sais pas si c'est quoi votre vision du film. Là. On en a parlé un peu dans tous les sens. Ouais. Mis à part qu'il y a des trucs qui ne sont pas crédibles, nécessairement. Ah oui, d'ailleurs, je veux juste revenir sur le point. À un moment donné, on voit on le voit dès le début, puis dans l'abondance, on le voit, il tombe. On a l'impression, comment ça se fait qu'il...
De la station spatiale, oui.
C'est que c'est pas une station spatiale, justement, c'est que c'est une tour de communication extrêmement haute.
Mais qui s'en va quand même passer à la stratosphère.
On sait pas, c'est dur d'évaluer à cette hauteur-là.
On suppose
qu'il est à la limite là, de ce qui est possible. Ça peut donner encore l'impression que c'est pas crédible. Cela dit,
c'est lent comme film?
Non, moi j'ai trouvé que le rythme était impeccable dans ce film-là.
Non, mais pas au niveau du rythme, au niveau de je sais pas. Peut-être le sentiment parce qu'on est dans l'espace.
C'est ça, moi je pense que c'était ce qu'on voulait illustrer. Mm-hmm. Puis moi je trouve que ça m'a mis dans le film justement, mm-hmm. cette rapidité-là. Je voulais pas un film d'action. qui va trop vite. Je voulais pas un film où il se passe rien, mais je trouve que c'est une belle balance entre les deux, où il se passe des trucs, il y a quelque chose, puis même quand les scènes sont lentes, soit que c'est des beaux paysages vraiment bien faits quand même de l'espace, puis que c'est intéressant à regarder, ou sinon il y a quand même toujours une raison associée à cette lenteur-là pour te faire sentir un peu comme le personnage. Fait que j'ai trouvé que c'était pas, tu sais, il y a des fois, c'est juste genre une lenteur mais que tu dis, mais
non,
pourquoi
t'as amené cette lenteur-là? Non, mais plus dans le sens contemplatif un peu, là.
Moi, j'ai pas senti le
côté ça m'a pas chalé non plus.
Contemplatif tant que ça dans le film, parce que je me sentais, dans ces moments-là, je me sentais comme le personnage. Tu sais, je rentrais dans le film, puis j'étais pas dans le côté contemplatif, puis je me séparais pas.
Plutôt, plus, ça reste l'inverse. On restait avec le personnage.
Restait avec le personnage, moi aussi.
Qui nous collait à ce personnage-là. Puis même, il y a une narration, on peut le dire, là, dans le film, il y a une espèce de narration du personnage principal qui pense comme un peu dans sa narration. On l'entend penser, autrement dit. Et c'est fort intéressant ce que ça amène comme feeling. On est vraiment dans quelque chose de très... pas comment dire ça, là, de très...
Mais parce que tu sais que t'es raconté. Seul. Tu sais que t'es seul aussi avec toi-même, donc c'est aussi intéressant. Donc, rapidement, les notes.
Les notes, oui, François?
Ben moi, je donne un 8.5 quand même. Intéressant.
8.5, mais les notes?
Mix.
Moi, je donne un 7.
Un 7? Moi, je donne un 9. Donc, mon film Ad Astra, que je retournerai sans problème voir au cinéma. Ad Astra, vers les étoiles. Merci à tous d'avoir été là. Merci à nos auditeurs. C'est déjà pas mal la fin de cette émission de Cinébrunch. J'ai vu la bande-annonce du film Joker, qui s'en vient bientôt. Je sens que ça va être assez bon, cette affaire-là.
Oui, j'ai hâte d'aller voir ça.
Donc, oui, on s'en reparle. Donc, tout ça, à la semaine prochaine. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur notre site cinébrunch.com. Sinon, on se retrouve samedi prochain, 11h, en rediffusion le mardi à la même heure. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.